Podcast numéro 2. Lors de notre premier podcast, nous avons beaucoup abordé la question de la résilience. Et c'est une question qui me tient particulièrement à cœur parce que je crois que c'est important. Encore plus dans les temps par lesquels nous passons. Je voudrais rappeler que la résilience est un processus, pas un état. Ça veut dire que ça s'apprend en fait. Ça veut dire que quelle que soit la personne que vous êtes capable, si vous ne l'êtes pas déjà, de devenir résilient. On peut donc travailler au déclenchement de la résilience. On a pu être abîmé par un choc, une agression, un malheur, une tragédie, quelle qu'elle soit, il est possible de devenir résilient. Il est possible de renverser la tendance, de renverser ce qui aurait pu nous amener à être totalement confus, perdus, noyés. Il est possible de travailler à une résilience qui nous permet de sortir de cet état. Alors, la résilience, c'est à la fois simple, mais pour mieux comprendre, il y a, à mon sens, un élément sur lequel on doit revenir et qui peut impacter significativement notre disposition à la résilience ou le fait d'être résilient. Donc, ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est les questions de ce qu'on appelle les attachements sécures. Les attachements sécures, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas rentrer dans une théorisation des attachements sécures, mais j'ai envie de vous en parler parce que lorsqu'on vient au monde, nous sommes dépendants de ces attachements et ils peuvent influencer nos étapes de développement. Ils vont influencer aussi notre vie d'adulte. Donc, les attachements sécures, c'est ce que je vous invite à faire en faisant un bond en arrière, c'est-à-dire dès le moment où de la conception presque. Finalement, on vient au monde dans le ventre d'une personne, d'une maman en l'occurrence. Hein. Et dans ce ventre, nous sommes déjà des êtres émotionnels. Nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, mais nous ressentons. Nous ressentons des émotions qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont celles de l'accueillant, celles de la personne qui nous contient. Donc, alors, comme je vous disais, la question, c'est les facilitateurs de la résilience, plus précisément. Et on s'est rendu compte que certaines personnes, de par l'environnement, de par les expériences de l'enfance, ont développé un attachement qui peut impacter l'accès à la résilience. Donc, comprendre ces facilitateurs, c'est vraiment important. Alors, au-delà même du processus de résilience, hein, c'est important parce qu'ils en disent long sur ce que j'appellerais ce dont nous sommes faits. Comme je vous le disais un peu plus haut, dès la vie in utero, le fœtus a déjà une première expérience sensorielle dans le ventre de sa mère. Nous sommes émotionnellement dépendants. Et quand on parle d'attachement, c'est une manière d'appréhender le développement social et émotionnel standard. Et on s'est rendu compte que le développement d'un enfant est souvent conditionné par des figures d'attachement. Les figures d'attachement, généralement, c'est d'abord la mère et le père et l'environnement proche et immédiat de l'enfant. Et plus le temps passe, plus on se rend compte à quel point ce père, cette mère, crée des modèles, ce qu'on appelle des modèles opérants, qui vont influencer ses sentiments, ses pensées, ses attentes et même ses relations avec l'extérieur dès son plus jeune âge. Je vous donne un exemple. J'ai une patiente qui, qui me dit que elle s'est rendue compte que face aux épreuves, dès qu'elle elle traversait quelque chose de compliqué, elle se souvenait de ce que lui disait sa mère. Et je reprends un peu ces mots. Elle disait que je n'étais qu'une enfant très jeune. Et lorsque ma mère traversait certaines situations compliquées, je l'ai vue. J'ai senti par quoi elle passait. J'ai vu comment elle a su gérer, comment elle a su trouver des solutions. Et ce souvenir qui me revient, c'est comme une force qui m'aide à supporter les choses et à définir presque mon attitude. Ce que cette patiente me dit, c'est que sa mère, par son comportement à elle et son attitude, l'a influencé suffisamment pour que lorsqu'elle traverse une épreuve, elle se reconnecte à cette position où finalement il y a une épreuve, on la gère et on fait au mieux pour la régler. C'est un exemple que j'appellerais plutôt positif en fait de ce que cette figure d'attachement qui est sa mère, qui est une figure importante, lui a transmis des outils, si on peut parler ainsi, pour pouvoir surmonter une situation. Finalement, est-ce que la force vient d'elle-même ou pas? Non, ça vient de ce qu'on lui a transmis. Parce que ce qu'on nous transmet, assurément, va jouer un rôle dans ce qu'on devient. Alors, je vous fais un peu, alors sans entrer dans des grands détails et dans une, comme je disais, je ne suis pas là en fait pour vous faire un cours sur la question de l'attachement, mais vraiment pour que vous ayez une vision un peu plus globale peut-être de ce que c'est et à quel point ça peut nous influencer. Et en fait, on distingue en général plusieurs formes d'attachement. Attachement sécurisé, attachement anxieux, attachement évitant, attachement désorganisé. Alors, il y a moult théories sur l'attachement. Certains vont composer en disant attachement anxieux évitant, désorganisé évitant, enfin, de multiples, je dirais, associations sont possibles, mais essayez de retenir ces attachements sécurisés, anxieux, évitant, désorganisé. Et en fait, l'attachement, en fait, ça se réfère au lien émotionnel que le bébé va développer avec cette figure d'attachement pendant la première année. Pas que, hein, mais en tout cas, la première année est essentielle, en fait, dans ce que l'enfant va pouvoir capter de la figure d'attachement. Voilà. Alors, en principe, une figure d'attachement, ça fonctionne comment? C'est la figure qui va symboliser un havre de paix, une source de réconfort et de protection. Lors, par exemple, d'une menace, quelle qu'elle soit, c'est cette figure d'attachement qui rassure. C'est une base de sécurité pour autoriser l'enfant à explorer l'environnement sans être dans la crainte, dans la peur ou dans l'anxiété, en fait. Elle est vraiment... Il faut voir cette figure comme non seulement un filet de sécurité, mais comme une sorte d'enveloppe qui protège et... Qui veille en fait, voilà. Et donc, le fait que cette figure-là soit disponible pour l'enfant pendant ses besoins, durant ses besoins, ses attentes et tout ça, ça va créer de la sécurité chez l'enfant. Et il va associer cette figure d'attachement comme « Waouh, je me sens bien, je suis en sécurité, je peux faire plein de choses, rien ne m'arrivera ». Hein, je caricature, enfin presque pas d'ailleurs, hein, c'est pas une caricature parce que c'est ce qui est ressenti par le bébé en général. Et on se rend compte que lorsque cette figure d'attachement se réfère davantage à quelque chose d'anxiogène ou où il y a de l'insécurité, ça devient pour l'enfant une menace parfois très compliquée à gérer. Le bébé ne peut explorer le monde avec confiance que si la figure d'attachement, c'est un ancrage très fort qui le préserve en fait de toute forme de danger de l'environnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. On s'est rendu compte que les enfants qui avaient une relation d'attachement évitante, sont souvent dans un contrôle excessif de l'émotivité. Ils se lancent dans l'exploration en ayant beaucoup de mal à s'investir affectivement avec l'entourage. Ils ont du mal à investir certains jeux ou ils ont beaucoup de mal à différencier la figure d'attachement et une personne étrangère. Donc, ce sont des enfants qui restent, je ne dirais pas qu'ils sont totalement à l'écart, mais en tout cas, ils ne montrent pas un investissement très important de la relation affective. Je dirais même qu'ils peuvent aller jusqu'à limiter l'interaction ou être très peu dans la recherche de contact. Et donc, indirectement, on peut dire que ce comportement-là va entraîner une difficulté justement à créer des liens d'attachement. Ensuite, on a l'attachement que j'appellerais ambivalent, résistant. Hein. Je ne l'ai pas cité dans les formes d'attachement, mais il me semble important quand même de l'aborder parce que ça explique bien des choses, notamment même dans la vie d'adulte en fait. C'est-à-dire que ces enfants-là ont une difficulté à s'attacher. Et même si on les sollicite, ils sont résistants en fait. Ils résistent, sont dans une position qu'on pourrait qualifier de méfiance vis-à-vis de l'extérieur, l'environnement étranger. Ils ne cherchent pas spécialement à explorer. Ils pleurent fréquemment. Ils ne sont pas forcément dans un équilibre. Parce qu'il y a ce besoin pour eux de sentir l'attachement, mais en même temps, cette difficulté à se laisser aller à l'attachement, et d'où la résistance. Et ils ont aussi du mal à être en confiance, à être tranquillisés par la figure d'attachement. C'est des enfants qui sont assez stressés par la séparation. Et ils ont du mal après à recevoir le contact ou l'attention parce qu'ils peuvent avoir du mal à différencier ce que c'est que le contact, une recherche de contact positive. Ils sont plutôt dans la tension, l'agressivité corporelle et ça devient très très difficile de répondre à leurs besoins dans ces cas-là. Il y a aussi une anxiété, une colère qui est souvent exprimée. Dans le cas des bébés, c'est beaucoup de pleurs. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un bébé qui pleure beaucoup que ça veut dire qu'il y a un problème avec vous. Hein. Attention. Hein. On évite de faire des amalgames ou des suppositions qui ne sont pas forcément appropriées, car chaque cas est différent. Et il est important de bien prendre le temps avant de considérer que si l'enfant pleure beaucoup, c'est qu'il y a un problème avec l'attachement et avec la mère ou je ne sais quoi d'autre. Alors, concernant ce qu'on appellerait un attachement désorganisé, voire désorienté. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces cas-là, les réponses comportementales de l'enfant sont mal dirigées ou ne correspondent pas du tout au contexte. Souvent, ça peut être lié à des comportements parentaux très perturbés, voire terrifiants. C'est-à-dire qui créent chez l'enfant un niveau d'anxiété, de stress très, très important. Et là, la figure parentale ou figure d'attachement peut générer de la peur, de l'appréhension. en mettant l'enfant dans une telle situation, dans une telle impasse, qu'il n'arrive pas à se calmer, qu'il n'arrive pas à trouver une source d'apaisement. Il est tout le temps dans une forme de panique. Et donc, on voit que ces enfants-là, souvent, ils vont chercher à fuir cette figure d'attachement ou avoir des comportements totalement inadaptés. Alors, ce sont des enfants, dans beaucoup de cas, qui ont des parents qui malheureusement ont des carences affectives très sévères eux-mêmes et qui sont incapables de donner du cadre et d'établir un lien qui soit cohérent et sain avec leur enfant. Alors, bon, là, je vous ai un petit peu dressé quelques éléments pour comprendre, mais je crois que, bon, c'est pas mon objet en tout cas, de revenir à vos premières expériences infantiles, mais c'est pour vous dire que ces expériences-là peuvent, c'est ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas dans les recherches, s'appliquer au comportement des adultes, notamment dans les relations sentimentales. Où là, on décrit aussi quatre styles d'attachement chez l'adulte, c'est-à-dire l'attachement sécure ou sécurisé, anxieux, soucieux, évitant. Alors parfois, on parle même de distant-évitant, craintif-évitant. Alors, c'est vrai que quand on y regarde de plus près, ces attachements-là sont assez liés en fait au type d'attachement durant l'enfance. Les adultes, par exemple, qui sont sécures ou qui sont, je dirais, bien dans leur peau, hein, pour résumer rapidement, ce sont des adultes équilibrés et autonomes. Ils ont une vision positive d'eux-mêmes, de leurs partenaires et des relations qu'ils nouent. Ils sont à l'aise, ouverts et capables d'être dans une gestion des relations qui soit saine. Donc, ça, ce sont les adultes sécures. Ensuite, vous avez des adultes anxieux, soucieux. Alors, ces adultes-là, souvent, ils ont un besoin excessif d'approbation, de réponse à leurs initiatives. C'est-à-dire que prendre une décision devient compliqué. Je vous donne l'exemple d'une patiente qui me dit, voilà, je suis sur tel projet au niveau de mon travail et j'ai besoin que plusieurs de mes collègues valident ce travail. Pourtant, c'est un travail qui a été fait dans un cadre où ses compétences, enfin, elle n'était pas en difficulté par rapport à ce travail, elle n'était pas, je dirais, elle avait l'expérience en tout cas de ce projet, mais il fallait absolument qu'elle ait l'approbation de ses collègues ou de d'autres personnes qui ne sont pas forcément aussi compétentes qu'elle. Et ça peut traduire aussi des problématiques de dépendance parfois excessives. Parce qu'ils ont souvent peu confiance, ils ont une vision d'eux-mêmes qui est très mitigée et c'est pareil pour leur entourage. Et ils sont souvent, dans beaucoup de cas, susceptibles de montrer au sein de leur relation leurs sentiments à un niveau, je dirais, disproportionné. L'impulsivité apparaît souvent chez ces personnes. Alors, les adultes distants évitants, là, ce sont des adultes qui, à la fois, vont montrer une distance par rapport aux autres, mais aussi qui ont un haut niveau d'indépendance. C'est-à-dire que ils se suffisent presque à eux-mêmes. C'est souvent des adultes qui se perçoivent comme autosuffisants. Oh, vous savez, moi, les gens, j'avoue que je m'en préoccupe peu. Hein. J'ai pas le temps, je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas vraiment besoin des autres. C'est un peu comme si on a l'impression qu'ils ne peuvent pas être concernés par des sentiments d'attachement et qu'ils n'ont pas besoin de relations proches. En fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que cet adulte distant et évitant, il ne l'est pas parce qu'il est forcément très, très, très indépendant. Il l'est parce que il est préférable pour ces adultes de limiter les contacts, de limiter les relations, ce qui permet aussi de limiter le rejet, ce qui permet de limiter en tout cas ce que je peux appeler une forme de souffrance de la part des autres. Si je mets les autres à distance, j'ai plus de chances de ne pas en souffrir, de ne pas subir des remarques, de rejet, de répulsion. Donc finalement, c'est une façon de se protéger de l'environnement extérieur, une façon de se protéger émotionnellement d'un risque de rejet ou de blessure. Ensuite, nous avons les adultes craintifs évitants. Alors, ces adultes-là, souvent, éprouvent des sentiments partagés au sujet des relations proches. Alors, à la fois, on va les voir avec ce désir d'aller vers les autres et en même temps d'être mal à l'aise quand il y a la proximité émotionnelle. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont une tendance à se méfier de leur partenaire et se considèrent en général comme relativement indignes d'affection, de la même façon que les adultes distants évitants. C'est-à-dire que finalement, moi, je préfère en fait, pour éviter de souffrir, je préfère quand même me retirer ou dire « moi, je suis timide, par exemple, je préfère ne pas aller vers les autres, j'ai du mal avec les relations extérieures. » Mais en fait, c'est une forme de protection, ou peut-être plus de défense, en fait, c'est se dire « si je fuis l'extérieur, si je fuis l'intimité, si je réprime mes sentiments, il y a de fortes chances que je ne souffre pas. » Et souvent, ces adultes ont certainement par... dans l'expérience, les premières expériences infantiles, ont dû avoir un comportement assez ambivalent de leurs parents. C'est-à-dire, finalement, alors là, franchement, un peu, je dirais que ce qui me vient, c'est se dire, les parents qui tantôt peuvent être très, très envahissants affectivement et de l'autre côté, être assez agressifs ou en tout cas, donner tellement d'ambivalence dans la relation que finalement l'enfant ne sait pas trop comment se situer et peut vivre l'intimité émotionnelle ou la proximité avec les autres comme un danger à éviter. En fait, les styles d'attachement qu'on voit avec les adultes sont souvent très proches de l'attachement, des styles d'attachement qu'on voit avec les enfants. Alors, c'est vrai que beaucoup d'aspects de l'attachement ont été étudiés chez les enfants. Et ce qu'on se rend compte, chez les enfants ou les adultes d'ailleurs, on se rend compte que l'organisation et la stabilité des modèles opérants internes, c'est-à-dire finalement, vous savez que lorsqu'on vous transmet, vos parents vous transmettent des valeurs, une éducation, enfin tout ce que vous voulez, ça va créer ce que j'appelle, alors j'aime pas, je ne dirais pas que ce sont forcément des modèles opérants, mais en fait, un peu dans mon jargon, je dirais, l'éducation qu'on reçoit de nos parents ou l'expérience infantile que nous avons avec eux, même quand nous sommes séparés d'eux, ces expériences, cette relation a été internalisée. Ça veut dire que... Madame Y qui me dit, par exemple, j'ai été élevée de façon très, très sévère par mes parents. Il y avait des règles à respecter tout le temps. C'était très, très dur. Et aujourd'hui que j'ai mes enfants, je me rends compte que je fais la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, à mon sens, comme je l'entends, c'est, voilà, elle a intégré ces modèles, ces figures d'attachement, ces figures parentales, de telle sorte que même s'ils ne sont plus présents auprès d'elle, elle reproduit, ou en tout cas, ce qu'on lui a donné va impacter son comportement, son attitude dans l'éducation de ses enfants, par exemple. Voilà. Alors, il faut savoir une chose que nos besoins, en fait, nos besoins affectifs et émotionnels, nos besoins sont intimement liés, en fait, à notre expérience d'attachement avec nos parents. On sait aussi que ce n'est pas parce qu'on a eu des parents qui étaient de telle ou telle manière ou des figures d'attachement qui étaient de telle ou telle manière que ça veut dire qu'on a que ce qu'ils nous ont donné, en fait. C'est-à-dire, et bien heureusement peut-être pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que, oui, il y a ces modèles-là qu'on a intériorisés. Mais il y a aussi d'autres modèles qui se sont créés par interaction relationnel avec l'extérieur, en fait. Et dans bien des cas, on voit que chez un individu, il peut y avoir différents modèles opérants internes pour différentes relations. C'est-à-dire que quand je suis en relation avec ma compagne ou mon compagnon, je suis exactement comme mon père et ma mère. Mais quand je suis en relation avec ma collègue de travail, je ne reflète pas, ou en tout cas je ne manifeste pas de comportement en lien avec ce que j'ai reçu de mes parents. D'accord ? Donc, ce que ça dit en tout cas, c'est que chaque individu est particulier, spécifique, et que ce n'est pas parce qu'il y a une théorie sur l'attachement qu'elle doit s'appliquer à vous. Mais c'est quand même important, à mon sens, de savoir ce que c'est et d'arriver aussi à s'observer pour voir dans quelle forme d'attachement nous avons grandi, nous avons évolué, et jusqu'à quel point cette forme d'attachement, en tout cas, va générer des comportements plus ou moins liés. Alors, comme je parle d'exemple, je disais que, par exemple, la relation que nous pouvons avoir avec notre conjoint peut être en grande partie liée à notre expérience infantile du couple, que représentaient nos parents ou que ne représentaient pas nos parents. Vous allez voir que vos parents étaient de ceux qui se disputaient toute la journée. Alors, il est fort possible que, en tant qu'adulte, vous ne puissiez plus supporter une forme de dispute, quelle qu'elle soit. Dès le moment où une situation conflictuelle apparaît, vous vous renfermez parce que ça réactive quelque chose qui a été vécu comme traumatisant pour vous étant enfant. Donc, vous refusez toute forme de conflit parce que le conflit signifie le se faire mal, de se blesser et c'est intolérable pour vous. Ou le fait de les avoir vus se disputer, vous devenez adulte et vous en faites autant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on est dans les extrêmes. Il est rare qu'ayant subi ce type de situation, on soit dans l'équilibre. Souvent, on est dans les extrêmes. Je dis bien souvent. Et ce n'est pas valable pour tout le monde. Mais en tout cas, certains éléments peuvent nous avoir impactés suffisamment pour qu'on soit dans l'extrême opposé ou dans presque la totale similitude. Mais c'est intéressant, je pense, de... Quand on est dans une situation, là on parle du couple, hein, mais dans quelles que soient les relations que nous avons, de questionner en fait notre comportement. Je me rends compte que quand mon conjoint parle de telle chose, ça me met dans un état, c'est presque inacceptable. Alors, au lieu de se mettre dans cet état qui semble inacceptable, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un peu de recul pour questionner ce qui se passe pour nous et peut-être même revenir à ces questions d'attachement? Alors, je vais vous donner aussi un autre exemple d'un de mes patients. Il me raconte une scène où il me dit « Mon fils de 11 ans vient me voir. Il vient vers moi, il m'enlace. Et il me dit qu'il m'aime. Mais tout d'un coup, il se sent totalement pétrifié. Parce qu'il se dit qu'à ce moment-là, je ne sais pas quoi lui répondre. Je réalise brutalement que je n'ai pas reçu suffisamment de marques d'affection, d'attention. Et je ne sais pas comment réagir quand on me manifeste autant d'amour aussi spontanément. » Et il me dit, alors, est-ce que ça veut dire que je ne sais pas ce que c'est qu'aimer? Parce que je ne sais pas recevoir l'amour. Voilà. Et ça paraît presque comme une révélation pour lui. Et je pense que ça devait l'être presque. C'est de se dire finalement, le fait de ne pas recevoir de l'amour de mes parents, de ne pas recevoir de tendresse ou de manifestation chaleureuse d'affection, ça m'a mis en difficulté de l'exprimer. Mais on peut aussi avoir, dans une situation similaire, un autre adulte qui, lorsque son enfant va se rapprocher de lui, il va encore le serrer deux fois plus dans ses bras, lui dire 10 fois plus « je t'aime ». Parce que lui, de ce qu'il aura vécu, saura générer chez lui un comportement à l'inverse qui parfois peut être totalement envahissant. C'est-à-dire avec ce désir d'aimer, de protéger, d'imputer une part de liberté à cet enfant ou à ce jeune. Parce qu'on a tellement manqué de protection qu'on en devient surprotecteur. Alors, toutes ces questions que, tous ces éléments que je viens d'aborder avec vous, c'est pour vous dire que nous sommes aussi disponibles pour la résilience par rapport à ce qu'on a vécu. Ça ne veut pas dire que si vous avez eu un attachement insécure, résistant, distant, évitant, désorganisé, que vous n'aurez pas la possibilité d'être résilient. Mais certainement que ça peut influencer sur le temps que ça peut mettre pour le devenir, ou au-delà même de la question du temps, ça peut influencer votre comportement face au traumatisme. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter là pour ce podcast et je vous invite à y repenser, y réfléchir, sans bien sûr vous enfermer ou créer une forme d'étiquetage au niveau de votre pensée en vous disant « ben voilà, moi je suis comme ça, comme ça ». Non, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à une étiquette, mais se dire « je peux être comme ci ou comme ça, je peux avoir vécu telle ou telle chose ». Mais je suis aussi capable d'être acteur de ce que je suis et de ce que je veux devenir. Et être résilient, c'est décider de ne pas s'enfermer, s'arrêter à une circonstance défavorable et de tenter de se relever. Alors, ce n'est pas facile. Se relever, le temps que ça prend d'une personne à l'autre est différent. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes très violents, c'est-à-dire, par exemple, des viols collectifs pendant la guerre, des choses assez terribles, la personne Y et la personne B ont vécu ces mêmes événements, mais vous allez voir que ces deux personnes vont avoir un comportement totalement différent. Pourtant, ces deux personnes ont été violentées, ont subi une forte agression, un fort traumatisme, mais les mécanismes qui vont se mettre en place pour la résilience ne seront pas les mêmes et dans le même temps, en fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Merci à vous.